Donc bonjour Xavier, bonjour Damien.
Salut,
salut à toi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes rencontrés?
En fait, on était au lycée ensemble, donc il y a quelques années, on va dire. Voilà, et on s'est un petit peu perdu de vue, en fait. Chacun a fait des études différentes, et puis, grâce aux réseaux sociaux, on s'est retrouvés aux alentours des années 2014-2015. Autour d'une passion commune qui était la musique. Et ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est le fait qu'on soit partis ensemble au Hellfest en 2015. Voilà.
Très bien. Et comment le projet du coup Stoner Freak Anthology s'est créé?
Alors en fait, on avait commencé par créer une petite playlist. Une petite playlist audio de je sais pas, il y avait combien, 150 ou 200 titres, pour faire connaître un petit peu le genre de musique qu'on écoutait aux amis, aux connaissances, aux proches, à la famille. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que 200 titres, c'était
Trop peu.
beaucoup trop peu. Et au fil des découvertes, on est arrivé à 500 groupes, 1000 groupes, 1500, 2000, jusqu'à 3000. Et un soir, on discutait et tout, et je lui ai dit, c'est vraiment dommage de faire juste une playlist audio. Ça te dit qu'on crée un espèce de dictionnaire de toutes nos découvertes, qu'on classe tout ce monde-là par ordre alphabétique avec quelques petites chroniques et tout ça. On a lancé l'idée comme ça. On s'est dit, ouais, pourquoi pas. Et puis l'idée est venue comme ça. Donc il y a quoi? Il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc, on s'est mis à écouter énormément, énormément de musique, d'écrire les chroniques au fur et à mesure. Et puis après, on est arrivé avec un gros fichier de 400 ou 500 pages. Et donc, après, on a dû écrire donc toutes les chroniques, tout ça. Donc, ça a pris énormément de temps. Et voilà. Après, quoi d'autre?
Ouais, après, Damien a eu l'idée de demander à trois, quatre groupes qu'on avait en contact, si ça les intéressait d'être interviewés par rapport, justement, la scène stoner, les concerts, les meilleurs souvenirs, ce genre de choses. Et puis, on s'est rendu compte que ça prenait vachement bien. Donc, du coup, on a envoyé plein, plein de bouteilles à la mer en se disant, on n'a rien à perdre. Du coup, on a tenté par relation, des groupes relativement connus, des personnes assez connues sur des groupes pionniers. Et ce qui fait qu'on a réussi à avoir dans ce premier volume Nick Oliveri, Gabriele Fiori, pour ceux qui connaissent, Mario Lali. Enfin, on a vraiment Jean-Paul Gaster. On a réussi à avoir des grands noms pour comment dire, donner un petit côté légitime à notre travail.
Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a envoyé en fait toutes les demandes d'interview pendant le confinement, donc de mars 2020, en mars-avril, et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se sont servies de l'interview comme d'un exutoire pour parler vraiment musique. Ils se sont dit, on peut pas faire de concert et tout ça, donc c'est gentil de penser à nous, c'est gentil de parler musique encore en ces temps difficiles pour tout le monde et tout ça. Et après, on a eu, avec le bouche à oreille des grands noms, parce qu'on a commencé à envoyer les premiers qu'on a contactés, c'était Gabriele Fiori, on a contacté Ben Ward d'Orange Goblin, on a contacté Nick Oliveri et Brand Björk, et ces quatre-là ont répondu. Donc on s'est dit, si ces quatre-là répondent, logiquement, les autres devraient répondre aussi. Et après, le bouche à oreille a fait que certains groupes nous ont contactés eux-mêmes en disant, oh, on a appris par tel groupe que vous étiez en train de faire un livre, ça nous intéresse aussi. Et puis après, le bouche à oreille est venu comme ça fait effet boule de neige, et on a eu plus de 250 interviews comme ça.
D'accord, vous avez répondu à toutes mes questions, les questions que j'allais vous poser. Je vous remercie, mais j'en ai d'autres, vous inquiétez pas. Surtout par rapport au design de la couverture, est-ce que c'était vous qui avez l'idée, qui l'a designé, ou est-ce que ça a été quelque chose qui a été fait complètement, on va dire, sur un morceau de papier à la va-vite à 23 heures?
Non, en fait, on a contacté Joe Rioux, donc qui est illustrateur, qui habite en région parisienne. Donc moi, je l'avais déjà rencontré lors d'un concert sur Paris. On avait déjà discuté, je lui avais déjà parlé un petit peu du projet. Il m'avait dit, si jamais ça se concrétise et tout, tu m'appelles, il n'y a pas de souci, on en discute. Et donc on s'est rencontrés tous les trois avec Joe donc sur Paris au mois de juin 2020. À la terrasse d'un café sur Paris, à l'époque on pouvait encore. Et donc, on lui a dit, tiens, est-ce que tu aurais une idée du truc et tout. On lui avait déjà amené quelques pages tests. Et au cours de la discussion, il a eu une idée comme ça. Il a sorti un bout de papier. Il dit « J'ai une idée. Faire un espèce de dieu du stoner dans le désert avec un groupe qui joue et tout machin. » On lui a dit « Ouais, pourquoi pas ? » Il nous avait griffonné déjà la tête du bonhomme et un petit peu le trône et tout ça. Donc, on a encore on a gardé le papier,
ouais,
le croquis d'origine. Et voilà, on lui a dit « Bah oui, pourquoi pas ? Vas-y, lance-toi. » Donc, on lui a laissé carte blanche sur l'idée. Et au fur et à mesure, donc toutes les trois semaines ou tous les mois, on conversait ensemble. Il nous envoyait au fur et à mesure l'avancée du projet et on a trouvé ça. À chaque fois qu'on voyait l'avancée du truc, on disait « Tiens, ça va être super, ça va être un truc de fou. » Et même lui était content parce que c'est la première fois qu'il travaillait pour un livre. Il avait l'habitude de faire des affiches de concert, des artworks de disques et tout ça. Et donc là, ça lui permettait un peu, comme il nous disait, de sortir un peu de sa zone de confort et de faire autre chose que ce qu'il faisait d'habitude. Et lui aussi, ça lui il a adoré et depuis il a eu plusieurs contacts par des groupes pour faire des pochettes d'albums et autre chose, donc en fait c'est tout bénef pour tout le monde en fait.
Très bien. Est-ce que chaque groupe des 3000 groupes que vous avez interviewé a reçu justement son livre?
Ah, bonne question. En fait, ce qu'on a fait, c'est les 250 interviewés ont reçu le livre en copie digitale. Là, on est en train de contacter petit à petit par mail les 3000 groupes un par un pour leur dire justement que le projet s'est concrétisé, le projet existe et tout ça, et que si jamais ils veulent ne serait-ce que partager l'information et le lien vers notre éditeur, ils peuvent le faire sans problème. Mais c'est vrai qu'on a pu le faire grâce à un crowdfunding donc qui a réussi au-delà de nos espérances, parce qu'on pensait faire 500 exemplaires, on en a vendu 700 par ce biais-là. Et c'est vrai que si on avait dû, honnêtement, si on avait dû envoyer un livre physique à tout le monde, donc sachant qu'en général ils sont 3 ou 4 par groupe, je pense qu'on vendait chacun notre maison, parce que c'est vrai que chaque livre nous coûtait entre 32 et 35 euros à faire et on le vendait 40 euros, donc avec les frais de port, les frais pour le crowdfunding, tout ça, ça aurait été juste impossible. Donc c'est vrai qu'honnêtement, on en aurait fait 100 000 exemplaires, oui, c'était faisable, mais là, avec un tout petit tirage comme ça, c'était un peu compliqué, quoi.
D'accord. J'ai cru comprendre aussi qu'un deuxième volume était en cours.
Oui.
Est-ce qu'il sera uniquement sur le stoner, ou est-ce qu'on peut voir justement dans le deuxième volet des groupes un peu plus doom, classifiés sludge aussi ?
Alors, la frontière est difficile à déterminer. On a déjà eu des cas de conscience pour les groupes qui étaient intégrés dans le premier. On trouve déjà un petit peu de sludge, beaucoup de doom dans le premier, parce qu'en fait, faut pas s'arrêter sur le titre de l'ouvrage. C'est marqué Stoner Anthology, mais nous, c'est vraiment au sens très large du terme. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à cette frange-là qui nous intéressait. Et effectivement, il y a certains groupes qui pensent que c'est vraiment typé vraiment desert rock ou vraiment vraiment stoner, alors que c'est pas trop l'idée du truc. À savoir que on a lancé sur les réseaux sociaux justement des petits appels à ceux qui pensaient justement qu'on avait oublié tel ou tel groupe, donc on a reçu plein de listes, on a reçu plein de playlists, donc qu'on épluche au fur et à mesure avec Damien. On s'est effectivement rendu compte qu'on avait oublié pas mal de choses, et moi j'ai le sentiment que ça sera dans le même esprit, mais peut-être un tout petit peu plus ouvert quand même, de façon un tout petit peu plus large sur le côté psychédélique ou sur le côté doom occulte, un petit peu de sludge aussi, on n'a pas la possibilité, on pourrait faire un bouquin vraiment 3000 groupes que sur le sludge si on voulait, ou que sur le doom occulte ou le funeral doom, parce que le nombre de groupes qui existent dans ces univers-là est vraiment, vraiment énorme, surtout quand tu creuses et que tu te rends compte que t'en as qui ont sorti juste 2-3 morceaux et pas forcément un album. Donc on est obligé de se poser des limites, ne serait-ce déjà que physique, parce que le premier volume, si on avait voulu mettre plus de groupes, le bouquin il faisait 5 kilos et on pouvait plus l'envoyer, c'était pas possible, on a galéré.
On ne pouvait pas le fabriquer surtout.
Voilà, en plus.
C'est ça,
voilà. Donc ça s'est imposé comme ça à nous, mais effectivement sur le volume 2, certes il y aura plus tout ce chapitre-là sur les pionniers qu'on a quand même bien épluché, je pense. Mais il y aura vraiment, voilà, ça sera vraiment une continuité. Et puis, voilà, pour essayer d'ouvrir un petit peu, pas tes chakras, mais tes fenêtres sur l'univers Stoner au sens vraiment très large du terme.
D'accord, je regarde un petit peu. J'avais une question en tête, mais je l'ai oubliée. Super.
Ça peut arriver.
Ça arrive, ça arrive. Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à la création que vous voudriez nous partager ?
Ouais. Bah, là, comme ça, t'aurais pas à piocher un peu dans nos idées d'interview, toi, des fois ?
Pas du tout.
Non, après là, il y a deux principales anecdotes que j'aime bien raconter. Il y a quand on a essayé de contacter en fait Nick Oliveri, on a contacté directement son agent, donc qui est Mona Miluski, donc la chanteuse de High Fighter, qui nous a dit oui, alors je vais essayer de faire ce que je peux, mais c'est vrai que le gars est un peu compliqué à voir, il est un peu dans son monde, il est un peu barré et tout ça. Bon, ok, pas de problème. Et trois semaines après, donc on a reçu son interview, donc en fait qui était un fichier audio de 32 minutes. Où en fait, on comprend bien dans l'interview qu'il a passé une bonne soirée, on va dire. Et donc, il enregistre ça en voiture, apparemment, parce qu'on entend derrière les bruits de roulement, les bruits de la voiture et tout ça. Et en fait, il répond aux questions tout en racontant un petit peu sa vie, en racontant des anecdotes sur sa carrière et tout ça. Et c'est absolument génial à écouter, quoi. Franchement, on a gardé ça en historique, quoi. C'est juste génial. Et aussi, la deuxième, c'est qu'on a réussi à contacter aussi l'agent de Clutch. Donc pareil, on a pas mal parlementé avec lui, et au moment où on s'est dit qu'on n'arrivera jamais à les avoir, il nous a contacté, il nous a dit bon, alors les gars sont ok pour vous répondre, donc Jean-Paul Gaster, le batteur, est ok pour vous répondre, mais uniquement par Skype. On a dit ok, chouette, on va essayer d'un petit peu d'améliorer notre niveau d'anglais, donc on va causer un petit peu avec lui, et il était pile à l'heure, il était en fait dans son studio d'enregistrement, et on a causé avec lui comme ça pendant 20 ou 25 minutes, c'était absolument génial, quoi. C'était juste un bonheur, on sent que le gars, même 30 ans après ses débuts, il est toujours passionné par le truc, il nous a raconté son amour des Bad Brains, quand il partait en étant ado, avec la voiture de ses parents à des concerts sur Washington et tout ça. Enfin voilà, c'est juste génial, quoi. Donc c'est ce genre de moment qui nous fait comprendre que c'était un pur bonheur à faire et qu'on l'a pas fait. Enfin, comme je dis toujours, on l'a vraiment pas fait pour l'argent, parce qu'on a honnêtement on a quasiment rien gagné dessus. C'était pas le but de toute façon. Le but c'était de partager une passion et de partager notre amour de la scène avec les autres et puis faire connaître surtout pas mal de groupes qu'on aime. Et qui mérite pour nous une plus grande visibilité que ce que peut leur apporter de s'inscrire sur Bandcamp ou les réseaux sociaux, quoi. C'est surtout ça, quoi.
Très bien. Sur aussi vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça, vous postez des photos justement de vinyles ou de groupes justement où vous partagez la musique de certains groupes, donc je suppose qu'ils sont dans les livres. Est-ce que ça vous intéresse de faire des vinyles ou bien des CD, on va dire, de playlists de morceaux que vous aimez bien en compagnie justement du livre ?
Alors le souci de faire ça, c'est que de toute façon, il faut demander les droits aux personnes, et je sais que faire ce genre de compile va coûter plus cher à faire qu'autre chose. Donc le plus simple, c'est vrai qu'en ce moment, c'est les playlists Deezer ou Spotify. On a eu une personne justement qui habite en Italie qui s'est proposé de créer lui-même une playlist avec deux chansons par groupe présent dans le livre. Donc il nous a fait une playlist de plus de 6000 titres qui est disponible sur Spotify. Et voilà, donc je pense que tout ce qui est support musique, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que nous, on a fait avec le crowdfunding, on avait fait des goodies, on avait fait l'affiche de Joe au format 40x60, on avait fait des cartes postales, des stickers, des marque-pages, des patchs et tout ça. Mais c'est vrai que l'histoire de sortir une compile comme ça, bon, déjà, c'est vrai que ça rendrait pas forcément hommage à tout le monde, parce qu'une compile vinyle ou CD, ça serait 15 ou 20 titres. Sur les 3000, ça serait très très compliqué à faire une playlist. Et voilà, donc je pense que le mieux, c'est de partager la musique comme ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que beaucoup de groupes font, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens physiques et financiers de faire fabriquer des CD ou des vinyles. Donc c'est vrai que les trois quarts des groupes qui sont présents dans le livre ne sont pas trouvables en format physique, on va dire, malheureusement. Parce que c'est vrai que faire fabriquer un vinyle, ça coûte horriblement cher, et on voit très souvent des groupes faire des crowdfunding justement pour avoir le financement pour le faire. Et voilà, donc nous on est parti sur l'idée d'un livre parce que c'est vrai que c'était entre guillemets le plus simple pour faire connaître un maximum de groupes.
Effectivement, le but ultime, c'est que les personnes qui s'intéressent à cette scène-là et qui ont acquis le livre aillent justement piocher, voilà, aillent écouter parce que quelqu'un qui est fan de ça, la première chose qu'il va avoir envie de faire en lisant la petite rubrique ou en voyant la superbe image de la pochette qu'on a mis juste à côté, c'est d'aller écouter quoi. Donc la chance qu'on a actuellement, c'est que grâce à Internet, grâce à Bandcamp, grâce à YouTube, à Spotify, à tous ces moyens-là, il y a possibilité d'écouter la plupart du temps sans acheter physiquement. Et pour surfer un petit peu sur pas mal de groupes dédiés à ce genre-là, on se rend compte que les vrais fans sont vraiment reconnaissants envers ces artistes-là et que la plupart du temps, quand ils en ont les moyens, ils passent à la caisse et leur commandent un CD ou achètent éventuellement la version numérique sur Bandcamp aussi pour soutenir, parce que c'est vraiment ce but-là en fait. C'est soutenir des groupes parce que, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, c'est vraiment le côté, surtout depuis qu'il n'y a plus de concert, même si ça va revenir, on a espoir, c'est vraiment tout ce qui est merchandising qui les fait vivre en fait. C'est ça qui leur permet de s'acheter des instruments, de les réparer, d'évoluer, d'enregistrer, parce que c'est pareil, un enregistrement, c'est pas gratuit non plus, donc c'est vraiment le fait de les soutenir comme ça. Voilà, le gars qui écoute tout le temps la musique sur YouTube sans jamais filer un rond, qui vienne pas se plaindre au bout d'un moment que la scène s'appauvrisse, parce que faut à un moment donné faut soutenir, faut aller en concert quand c'est faisable, faut acheter les disques quoi. Voilà, c'était ça un peu l'idée.
D'accord, je vous remercie en tout cas pour cette réponse assez complète sur tout justement, mais vous n'êtes pas les seuls à nous en avoir parlé. Aussi, tous les groupes nous disent qu'en ce moment, quand on les reçoit en interview, c'est le merchandising qui les fait vivre de toute manière. Donc moi, je vais terminer avec des questions un petit peu plus légères pour pas terminer justement sur la scène qui s'appauvrit. Mais bon, c'est vrai que c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Si vous pouviez jammer avec n'importe quel groupe sur la planète de Stoner, vous jammeriez avec qui et pourquoi?
Waouh.
Ok. Moi, je peux répondre pour toi, tu choisirais Black Rainbow, toi.
Black Rainbow, ouais. C'est pas les seuls, mais bon, ça fait partie de mes premiers coups de cœur. Donc, voilà, j'adore différentes franges de cette scène-là et ils ont été parmi les premiers. J'aime beaucoup aussi Mother Engine, Russian Circles aussi, j'aime beaucoup dans un univers un petit peu plus post-rock, mais c'est. Pour ce qu'il représente, j'aimerais beaucoup, ouais, effectivement. Après, toi.
Moi, je partirais sur. Je pense sur Cadavar, parce que pour les avoir rencontrés plusieurs fois, ils sont juste adorables. Et puis, peut-être un petit Monolord aussi, parce que j'avais emmené ma fille voir Monolord, justement, en concert quand ils sont passés à Reims, parce que je les avais interviewés pour Desert Rock. Et justement, on a pu les rencontrer et tout ça. Ils lui ont filé une baguette utilisée pendant le concert. Le guitariste lui a filé un Mediator et tout. Elle était ravie. Et ma gamine, elle a 12 ans. Elle adorait le concert, quoi, franchement. Donc, je pense que c'est un bon début pour elle, la mettre un petit peu dans ce milieu-là. Donc, je partirais sur Cadavar et Monolord, je pense.
Personnellement, moi, ce serait plutôt Hyatt God, à mon avis, ou Iron Monkey, ce genre de truc bien, bien dégueulasse.
Ouais, c'est clair.
Quelle est la première musique de Stoner que vous avez écoutée?
Ouf. Si on creuse bien, je pense qu'en fait, on a écouté du Stoner avant de savoir que ça en était, en fait, comme beaucoup de gens. Parce qu'en fait, moi, je pense que c'est en jouant à Tony Hawk Pro Skating quand j'étais au lycée et il y avait une musique de Fu Manchu qui m'est bien restée dans le crâne et ça restait dans un petit coin de ma tête. Et je pense que ça vient un peu de là en fait. Il y a cet esprit voilà, de rock stoner californien qui véhiculait à l'époque, qui fonctionnait pas trop mal. Parce qu'en fait, voilà, c'est né dans les années 90, en même temps que Nirvana. Donc, beaucoup de gens sont restés sur le grunge, sur Nirvana. Mais c'est vrai qu'il y avait tout ce côté-là, Caius, Queens of the Stone Age. Mais moi, le premier que j'ai écouté, je pense, ça devait être Fu Manchu. Et toi ?
Bah moi après ouais comme Xav j'ai écouté énormément de musique dans les années 80 90 2000 mais la première vraie grosse claque stoner moi ça a été Cadavar. Je suis allé au Hellfest en 2014 un petit peu appâté par la triplette Iron Maiden, Aerosmith, Black Sabbath en tête d'affiche et à l'époque je connaissais pas du tout Cadavar donc en 2014. Et je suis arrivé sous la tente de la vallée un samedi après-midi en plein soleil. Je me suis dit, tiens, je vais me poser un peu là, parce que le soleil tapait très très fort. Et je me suis mis devant les barrières et j'ai vu les trois grands barbus là, arriver, les trois grands arriver. Le batteur s'est mis derrière la batterie et je sais pas, ça fait comme un clic, quoi. Ça fait comme quand nos grands-parents ont dû découvrir Led Zeppelin ou un truc la première fois. Ça m'a fait un déclic dans la tête. Je suis resté devant pendant une heure et j'ai dit, c'est ça que je cherchais en fait. Dans ma tête, je me suis dit c'est ça qu'il me fallait. Et donc après j'ai creusé le truc et tout. Et voilà on en arrive après 7 ans après. Voilà.
Le groupe de stoner ultime pour vous, selon vous.
Black Sabbath. Hein, ouais, pour faire simple. Hein,
tu
voilà.
Fais pas dans la demi-mesure.
Non, non, mais eux, c'est ceux qui ont tout créé, quoi. Voilà. Au début des années 70, tout était à créer. C'est eux qui ont créé le heavy metal, le côté sombre de la musique, le côté occulte de la musique, voilà,
moi je rajouterais Caius. Hein.
Ouais, mais bon, oui.
Ils ont apporté leur petite touche. Ils ont créé, je pense, une sorte de mouvement sans le vouloir d'ailleurs, hein, parce que voilà, un peu comme au début de Nirvana, voilà. À chaque fois, il y a un historique, hein, des groupes apparaissent et fondent entre guillemets un nouveau mouvement, mais voilà, ils sont conscients de l'héritage, voilà, bah, de Black Sabbath, de plein de groupes des années 70.
Ouais, donc s'il n'y avait pas eu Black Sabbath, il n'y aurait pas eu tout le métal derrière.
Ouais, c'est ça, ouais. S'il n'y avait pas eu du blues, il n'y aurait pas eu Black Sabbath. Bah, enfin, on peut remonter très très loin comme ça. Mais Black Sabbath et Caius, hein, ouais, je pense, je dirais.
Où peut-on se procurer le livre ? Et une question qui m'a été posée et j'ai pas su répondre, c'est où se vend le mieux le livre ?
Alors, donc on avait fait un crowdfunding au mois d'octobre-novembre pour une première édition, donc qui était intégralement numérotée et signée de notre main à chaque personne qui l'achetait. Donc celui-ci est épuisé, il est collector. Et donc là maintenant, on peut le trouver sur le site des éditions des Flammes Noires, qui est en fait un éditeur breton qui nous a contacté justement suite à la réussite du crowdfunding pour le sortir sous son nom d'éditeur à 1000 exemplaires. Donc c'est exactement le même livre, hein. On a juste changé les pages de remerciements pour ceux qui nous avaient aidés à mettre en place le crowdfunding et tout ça, mais c'est exactement les mêmes textes, les mêmes images, la même mise en page, c'est exactement le même. Et donc il a fait faire tirer 1000 exemplaires et il y en a déjà un peu plus de 250 qui sont déjà vendus. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de deuxième édition parce qu'on va essayer de garder un petit peu le côté collector de l'objet pour ceux qui nous ont aidés à le mettre en place pour le crowdfunding. Et apparemment, il serait partant aussi pour travailler avec nous aussi pour le volume 2. Donc, à suivre, quoi. Mais pour l'instant, il faut aller sur le site. Ouais. Donc, c'est edt-flammenoir.com, je crois. Mais en tout cas, en tapant édition des Flammes Noires, on peut le trouver sans problème. Ouais. Et on le trouve que là, donc, sachant qu'il expédie dans le monde entier, que le livre est en français et en anglais sur le même exemplaire et que les frais de port sont relativement corrects parce que c'est vrai qu'il a un tarif éditeur que nous, on n'avait pas forcément pour le crowdfunding. Donc, par exemple, là, si on veut le commander pour l'Australie, c'est 15 euros de frais de port alors que nous c'était plus de 60 euros de frais de port, donc c'est beaucoup plus avantageux par son billet en fait. De toute façon, le seul billet pour le commander c'est avec lui uniquement maintenant.
Très bien, et vos projets du coup pour cette fin d'année 2021?
On va essayer de boucler le deuxième.
Hein, ouais, on va continuer
gentiment.
D'avancer. Ouais.
On a déjà récupéré une soixantaine d'interviews, pareil, exclusives, d'autres groupes supplémentaires. On va interviewer des photographes de concerts, des promoteurs de tournées, des patrons de labels, des organisateurs de festivals, des illustrateurs, tout ça. Donc, ouais. On va essayer d'étoffer un petit peu plus ce volume 2 pour donner envie à ceux qui ont déjà le premier d'acquérir le deuxième, parce que c'est pas une mise à jour, hein. Ça sera un livre complètement nouveau avec d'autres groupes en plus, d'autres interviews et tout ça. Donc c'est pas juste une réédition du premier, ce sera vraiment la suite logique du premier.
Très bien, bah, je vous remercie en tout cas messieurs. Moi je vais me procurer le livre dès que je peux, donc si je mange pas ce mois-ci c'est de votre faute. Et bah écoutez, moi en tout cas pour un pur fan de Stoner, quand on m'a dit qu'il y avait un bouquin de 3 kilos qui recensait plein de groupes, bon, c'est quand même un travail titanesque. Donc pour ça, je vous remercie messieurs.
Avec plaisir, mais c'était pas un travail, c'était franchement passionnant à faire. On a découvert énormément de musique, on a rencontré plein de monde, bon virtuellement pour l'instant, mais je pense que quand tout cela va rouvrir, on va peut-être pas faire un tour de France pour rencontrer tout le monde, mais on a déjà quelques invitations à honorer. Donc on va essayer de faire quelques salons du livre, quelques concerts pour essayer de partager la bonne parole. Et puis voilà, donc on attend franchement que tout ça reprenne, que la vie culturelle reprenne un petit peu pour pas forcément que pour nous, mais surtout pour tous les groupes qui sont dans le livre et qui ont besoin surtout de ça pour vivre assez souvent. Donc on espère que ça va reprendre assez vite et qu'on refasse tous la fête ensemble.
Bon, en tout cas, je sais de source sûre que vous êtes attendu à Évreux par un groupe qui s'appelle Red Eagles Noise, et que si jamais vous passez par là, il y a de grandes chances que je sois de la partie et que je ramène quelqu'un aussi.
Ça marche, avec grand plaisir. D'accord, ça marche.
Avec plaisir.
Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, et puis à la prochaine.
Ça marche. À toi aussi, à bientôt, merci.
Allez, ciao.
Salut.